Radio Kapi.
Oh, Kapi.
J'ai promis d'être là à 12h pile, heure de Kinshasa. Je suis là, mesdames et messieurs, à la une de cette édition. En Ituri, la baisse du taux de fréquentation du centre de traitement d'Ebola à Nyakoundé inquiète. Les habitants hésitent à s'y rendre, craignant une reprise des combats dans la région après les incidents survenus le 15 juillet dernier. Le vendeur et vendeuse du marché Mzé Laurent Désiré Kabila à Lubumbashi s'oppose à tout projet visant à détruire leur lieu de travail. Ils l'ont rappelé lundi en manifestant dans les rues de la ville. L'année scolaire 2026-2027 s'annonce pleine de défis pour la sous-division urbaine de l'éducation des Kasuku dans la ville de Kindu au Maniema. À l'approche de la rentrée, Djunga Mashaka Bernard, responsable de cette division, nous présentera les stratégies envisagées, celui notre invité. Merci de vous installer pour suivre les détails. En Ituri, la fréquentation du centre de traitement d'Ebola demeure faible et une partie du personnel soignant n'a pas encore repris ses activités à Nyakoundé. Nyakoundé est une entité située à 45 km au sud-ouest de Bounia. Cette situation est observée quelques jours après les violences qui ont secoué la région. Selon l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, INADI et le Conseil provincial de la jeunesse, la psychose persiste au sein de la population qui redoute de nouveaux incidents. Le FRDC et la MONUSCO ont renforcé leur dispositif de sécurité pour rassurer la population et favoriser la reprise des activités. Des détails avec Isaac Remoyope.
La vie reprend progressivement à Nyakoundé, à Marabo, après les violences survenues le 15 juillet, à la suite de la mort du chef de la milice Front Patriotique Intégrationniste du Congo. Selon l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, l'INADI, les activités économiques et sanitaires ont repris, même si la situation reste marquée par une certaine psychose. Lors des affrontements, plusieurs habitants ainsi que des membres du personnel de santé engagés dans la riposte contre Ebola avaient quitté la zone par mesure de sécurité. L'INADI indique que 4 patients atteints d'Ebola qui avaient fui les centres de traitement ont été ramenés par leur famille et des membres de la communauté afin de poursuivre leur prise en charge. En revanche, la fréquentation du centre de traitement reste encore faible et certains agents de santé, notamment des partenaires internationaux, ne sont pas encore revenus. L'INADI et le Conseil provincial de la jeunesse invitent les populations déplacées à regagner leur village et appellent le personnel soignant à reprendre ses activités, estimant que les conditions de sécurité se sont améliorées. Sur le terrain, les FARDC ont renforcé leur présence pour assurer la protection des populations et des infrastructures. De son côté, la MONUSCO a installé une base opérationnelle mobile à Marabo afin de renforcer la sécurité dans cette partie du territoire du Rumu. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Merci Isaac Remoyope. Nous allons prendre la nationale numéro 4 pour nous rendre à Beni, au nord Kivu, où les besoins en sang restent importants tandis que les réserves s'amenuisent. Le centre de transfusion sanguine alerte sur une pénurie des produits sanguins qui compromet l'approvisionnement des hôpitaux et centres de santé de la ville et du territoire. En cause, la baisse du nombre des donneurs bénévoles, notamment pendant les vacances scolaires. Les responsables sanitaires redoutent les conséquences pour les patients nécessitant une transfusion sanguine d'urgence. Les précisions avec Martial Papimoukeba.
Chaque jour à Beni, les besoins en produits sanguins restent importants pour les blessés, les femmes confrontées à des complications d'accouchement, les enfants souffrant d'anémie et d'autres patients. Mais, depuis plusieurs semaines, les réserves diminuent et les centres de transfusion sanguine peinent à approvisionner les structures sanitaires de la région. Selon son responsable, le docteur Vianney Kambere, cette pénurie pourrait affecter la prise en charge des malades.
La grande cause est l'absence des donneurs réguliers. Les donneurs que nous rencontrons assez souvent, ce sont les élèves qui sont en vacances. Nous sommes vraiment en difficulté. Ça fait qu'on va continuer à déplorer les cas de décès par manque de produits sanguins. Or, dans la période d'épidémie d'Ebola ici, nous savons que le traitement se base beaucoup plus sur les signes et les symptômes que le malade peut présenter. Si on trouve que le malade est déficient en produits sanguins, il faudrait que les produits sanguins puissent être là disponibles.
Les centres de transfusion sanguine de Beni appellent à une mobilisation des donneurs bénévoles pour reconstituer les réserves. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Kapi.
Nous posons nos valises sur l'avenue Likasi à Lubumbashi, où le vendeur du marché Mzé Laurent Désiré Kabila sont descendus dans les rues, nous sommes lundi, pour exprimer leur mécontentement. Ils protestent contre un projet présumé des démolitions de ses principaux lieux de négoce de la ville. Pour faire entendre leurs revendications, ils se sont rendus à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Les manifestants disent craindre d'être dégarpillés du marché après avoir appris que les autorités urbaines envisageraient de raser les installations actuelle afin de construire un marché moderne et sur les mêmes sites. Une perspective qui suscite de vives inquiétudes parmi les commerçants, lesquels redoutent de perdre leur principale source de revenus. Le point avec Paul Munanga.
Le marché Mzé Kabila, construit en 1997, est l'un des plus grands marchés de Lubumbashi. Il est situé sur l'avenue Lumumba au centre-ville et compte plus de 17 000 vendeurs à en croire certaines sources. Les commerçants scandaient des chansons brandissant des pancartes dénonçant la décision de démolition du marché Mzé Laurent Désiré Kabila. Ils se sont rendus à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ils ne sont pas contre la construction des marchés modernes, mais ils proposent aux autorités de construire ce nouveau marché sur un autre site au lieu de détruire le marché Mzé Kabila. Devant les questeurs de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ils ont lu leur mémorandum dans lequel ils demandent aux élus du peuple de trouver une solution à ces dossiers.
Le marché Mzé Kabila compte plus ou moins 17 000 vendeurs qu'ils ont investis dans leurs activités pour subvenir aux besoins de leur famille par manque d'emploi. Sa destruction occasionnera la perte de milliers d'emplois et une grande précarité pour des centaines de ménages. Nous demandons l'ouverture d'un dialogue entre les autorités provinciales et les représentants des commerçants afin de trouver un terrain d'entente.
Le questeur Ahmed Moukouna les a rassurés que leurs revendications seront examinées au sein de l'organe délibérant. Aucune réaction pour le moment de la mairie de Lubumbashi. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Merci Paulin Munanga. Nous allons nous rendre à Bunyakiri. Nous sommes dans le site Kivu, la radio communautaire Bunyakiri, qui est une station partenaire de Radio Okapi, où vous suivez ce journal. La direction du parc national de Kahuzi Biega dénonce l'abattage d'un gorille de Groer survenu le 10 juillet dernier dans la zone marécageuse de Moussissi, en territoire de Kalehe. Dans un communiqué publié le 19 juillet, le parc indique que l'auteur présumé de cet acte a été arrêté avant d'être transféré devant les instances judiciaires à Walikale. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Des détails avec vous, Daniela Awa.
Selon la direction du PNKB, cet incident porte un grave préjudice à cette espèce protégée ainsi qu'au patrimoine naturel de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, le parc rappelle que le gorille de Grauer bénéficie d'une protection intégrale conformément à la législation congolaise en vigueur. Le PNKB déplore toutefois que la détérioration de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu depuis février 2025 ait entraîné la suspension des patrouilles de surveillance dans plusieurs secteurs du parc. Cette situation réduit considérablement les capacités d'intervention des éco-gardes et les efforts de protection de la faune à l'intérieur de ces terres protégées. Depuis plusieurs mois, des acteurs de la société civile et des défenseurs de l'environnement au Sud Kivu tirent la sonnette d'alarme sur l'exploitation illégale de certaines parties du parc. Ils dénoncent notamment le développement d'activités agricoles, de l'élevage ainsi que l'exploitation minière à l'intérieur de cet espace protégé.
Merci Daniela Awa. Un ouf de soulagement pour les habitants des communes de Mongafula et de Lancele à Kinshasa. Ces deux municipalités seront bientôt de nouveau reliées grâce à la construction d'un nouveau pont sur la rivière Lukaya. Cet ouvrage permettra de rétablir la circulation et les échanges entre plusieurs quartiers de deux communes interrompues depuis l'effondrement de l'ancien pont en avril 2025. Les travaux confiés à l'entreprise Safrimex pour une durée de 10 mois ont été officiellement lancés par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Une fois achevé, ce pont facilitera la circulation des personnes et de leurs biens ainsi que des véhicules d'une rive à l'autre. Cet ouvrage d'environ 100 mètres de long reliera directement des zones stratégiques, notamment les quartiers Lembaïmbu et Verman et d'autres secteurs de l'est de la capitale, Antélé, brisant ainsi l'isolement géographique. Selon les témoignages des populations riveraines, cet édifice permettra également aux habitants, aux écoliers et aux travailleurs de traverser la rivière en toute sécurité, évitant l'usage des passerelles de fortune périlleuse, comme indique Paul Chilumbu Kantola, qui salue la concrétisation de ces projets.
On était un peu dubitatif. Voilà que c'est du concret. Je remercie le ministre qui ne lésine pas sur les moyens pour reconstruire non seulement notre belle ville de Kinshasa, mais le Congo entier est un grand chantier.
Les travaux de construction de cet édifice ont été lancés par le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, John Banza, à la suite des cris d'alarme de population de ces secteurs de la capitale. Les ponts jetés sous la rivière Lukaya avaient été entièrement emportés par les pluies diluviennes qui se sont abattues les 5 et les 6 avril 2025. Cette coupure prolongée continue toutefois de perturber lourdement la mobilité quotidienne des riverains, transformant les passages en un véritable parcours des combattants.
Honore que vous plaidez, 10 000 jeunes de la région des Grands Lacs s'engagent à promouvoir la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Ils l'ont réaffirmé à l'issue de la 15e édition du Forum régional des jeunes organisé du 16 au 20 juillet 2026 par les diocèses catholiques de Goma. C'était dans la paroisse Rougabo, située au chef-lieu du territoire de Rutshuru, 70 km de la ville de Goma. Bernardin Nyangui nous donne des détails.
Réunis pendant 4 jours autour du thème « Jeunes, sois témoin de l'espérance et artisan de paix », les participants venus des diocèses de Goma, Bukavu en RDC ainsi que de Nyundo et Byumba au Rwanda ont réfléchi au moyen de renforcer la paix et le développement durable dans un contexte marqué par l'insécurité dans la région des Grands Lacs. Dans son allocution de clôture, l'évêque du diocèse de Goma, Mgr Willy Ngumbi, a exhorté les jeunes à rejeter le tribalisme, la drogue, l'abus d'alcool et la corruption. Il les a invités à devenir des artisans de réconciliation, de pardon et de la non-violence, à l'exemple du bienheureux Floribert Bonachoui. Face aux épreuves que nous traversons, nous pouvons tout attendre des dieux, mais nous avons aussi notre part à faire pour construire la paix dans la région, a-t-il déclaré. Organisé à l'école primaire Rougabo de Rutshuru Centre, cette 15e édition du Forum régional des jeunes catholiques a servi de cadre de formation et d'échange sur les défis sécuritaires, économiques et sociaux qui touchent la région des Grands Lacs.
Mis enquêté pour m'y rendre justice, 60 officiers de la police judiciaire OPJ du Kasaï Central, dont 10 femmes, ont achevé une session de formation à Kananga. Il intervient la session, bien sûr, à la suite des nombreuses insuffisances constatées dans la conduite des enquêtes et les traitements des dossiers judiciaires. L'objectif est de contribuer à une justice plus efficace, plus professionnelle et plus respectueuse des droits des citoyens. Cette rencontre était organisée dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise avec l'appui financier et logistique du programme des Nations Unies pour les développements PNID. C'est un reportage d'André Katendinga Lamouloumé.
Pendant 20 jours, les 60 officiers de la police judiciaire ont bénéficié d'un renforcement des capacités sur plusieurs thématiques essentielles à l'exercice de leurs fonctions. Au programme, techniques d'enquête, procédures pénales, droits humains, lutte contre les violences basées sur le genre et déontologie policière. Alain Kateta, chef du bureau du PNUD à Kananga, explique que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la police. Selon lui, elle vise à améliorer la qualité du travail des officiers des polices judiciaires, à renforcer l'efficacité du système judiciaire et à consolider l'état de droit.
On a constaté qu'il y a plusieurs officiers des polices judiciaires qui ont beaucoup de difficultés dans les enquêtes qu'ils sont en train de mener.
Au terme de cette formation, les participants affirment avoir acquis de nouvelles connaissances et des outils pratiques qu'ils comptent mettre au service de leur mission. Jacqueline Pouilly.
On avait un peu de manquement, mais à partir de cette formation, ça nous a un peu aidé à connaître d'autres choses. Comme on a renforcé les capacités, nous allons faire notre travail en bonne et due forme.
Présente à la cérémonie de clôture, les autorités judiciaires ont invité les bénéficiaires à mettre en pratique les enseignements reçus, exercer leurs fonctions dans le strict respect des droits des citoyens. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
Merci André. Nous quittons Kananga pour nous rendre au Kwilu. Au Kwilu, c'est du côté plaidoyer de culture pour la paix et le développement. C'est un thème choisi par les organisateurs de la 26e édition du Festival National des Gungu. Pendant 6 jours, 4 à Gungu et 2 à Kikwit. Plus de 1000 festivaliers et 20 000 spectateurs sont attendus au stade de Mufila, situé à 657 km de Kinshasa. Au programme de cette messe culturelle, danse traditionnelle, prestations musicales, rites et rituels, palabres africaines, balades touristiques, un colloque scientifique réunissant chercheurs et experts autour des enjeux de la culture, de la paix et du développement. Le coordinateur du FESNAG, Célestin Fosso-Mouchigo, en explique les enjeux au micro de Jean-Marc Matouaki.
Le thème retenu pour cette 26e édition est « Plaidoyer des cultures pour la paix » et le développement de la République démocratique du Congo. Ce thème traduit notre conviction que la culture constitue un puissant levier de cohésion nationale, de dialogue entre les communautés et le développement durable. Près de 1000 festivaliers sont attendus. Ils représenteront les institutions publiques, les autorités traditionnelles, les artistes, les scientifiques, les opérateurs économiques, les chefs spirituels, les acteurs culturels, ainsi que plusieurs délégations nationales et internationales. Nous attendons également près de 20 000 spectateurs par jour dans un stade ouvert, témoignant de l'engouement populaire que suscite le Festival national de Gungu.
Actualité internationale.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés vient d'annoncer que 144 personnes ont été portées disparues ou d'autres sont mortes. Nous sommes au niveau de la côte mauritanienne. Ces personnes en provenance de plusieurs pays africains tentaient de rejoindre l'Europe. Pour ce faire, l'ACER appelle la communauté internationale à investir dans l'éducation et le travail en créant des opportunités pour éviter à ce que des citoyens issus du continent ne puissent pas perdre leur vie dans les océans et les mers du monde entier.
L'invité.
Notre invité est Djunga Mashaka Bernard, chef de la sous-division urbaine de l'éducation des Kasuku dans la province du Maniema. À l'approche de la rentrée scolaire, il dresse les bilans de l'année scolaire écoulée et revient sur les résultats enregistrés, évoque les principaux défis à relever pour améliorer la prise en charge des élèves. Djunga Mashaka Bernard s'entretient avec Florence Kizalunga.
Djunga Mashaka Bernard, bonjour.
Oui, bonjour Madame Florence.
Comment évaluez-vous vos activités de l'année passée, c'est-à-dire 2025-2026?
Oui, Madame, les activités 2025-2026 dans notre entité de la sous-division urbaine de Kasuku, nous évaluons avec une satisfaction du fait qu'on a respecté les calendriers scolaires et on a respecté aussi les instructions. Du point de vue résultat, je crois que nous avions fait un score de 80%, cela prouve que nous sommes dans les bons. Mais qu'à cela ne tienne, il y a aussi des problèmes de défis. Nous avions constaté que nous avons encore les salles de classe pléthoriques, et ce qui fait aussi l'incompréhension à certains enfants d'assimiler la matière. Et cela est dit, c'est en rapport avec les induits de la gratuité. Voilà le pourquoi nous faisons que toujours plaider aux autorités, afin qu'ils puissent aussi penser aux induits de la gratuité dans notre entité de la sous-division urbaine de Kasuku. C'est-à-dire augmenter encore le nombre de salles de classe, changement de structure et création encore d'autres écoles.
Comment avez-vous alors planifié les activités pour l'année prochaine, c'est-à-dire 2026-2027 dans votre sous-division?
Les activités 2026-2027, nous sommes en train de planifier tout en respectant les thèmes qui nous a été envoyés par les autorités, c'est-à-dire nous voulons planifier nos activités en rapport avec l'éducation numérique vers un système éducatif moderne, actif et citoyen. Nous voulons informatiser le système éducatif au Maniema. Nous ne voulons plus que les enfants du Maniema restent en retard en rapport avec les outils informatiques. Le monde d'aujourd'hui est devenu numérique. Voilà là où nous sommes en train de planifier nos activités pour l'année scolaire 2026-2027.
Parlant de l'informatisation de vos écoles dans les systèmes, alors vous avez les outils informatiques qui pourront vous permettre réellement de réaliser cette vision?
Non, madame, il y a vraiment carence, je peux dire, des outils informatiques dans nos écoles. La raison pour laquelle nous plaidons au partenaires éducatifs et au gouvernement aussi central de nous parvenir en aide. Et pourquoi pas le gouvernement aussi provincial? Parce que nous avons plus ou moins 318 écoles dans notre entité et vous trouverez que il y a vraiment une carence là criante des outils informatiques. C'est pourquoi nous envisageons pour l'année qui commence d'ici là, pour que nous puissions aussi chercher des moyens par-ci par-là et que les partenaires aussi qui nous suivent pour le moment de nous parvenir en aide pour que l'éducation aussi dans notre entité soit au rendez-vous de la réalité numérique.
Avant que les partenaires ne vous viennent en aide, vous-même, est-ce que vous fournissez des efforts pour avoir quand même les outils informatiques?
Oui, évidemment, madame. Mais vous savez, la vie des Kindu, vraiment, il y a un sérieux problème, étant donné que le peu là que le gouvernement aussi envoie en termes de frais de fonctionnement n'arrive pas à couvrir tous les besoins nécessaires. Vous savez, dans l'éducation, nous avons besoin aussi des manuels dans certaines écoles. Nous avons aussi besoin aussi des renforcements des capacités de personnel enseignant, c'est-à-dire former les enseignants du degré élémentaire. Nous sommes en train d'envisager aussi cette activité pour cette année et c'est un coût qui va nous coûter énormément cher. Voilà le pourquoi nous faisons toujours recours aux partenaires pour qu'ils puissent vraiment nous appuyer afin que cette activité et les outils informatiques ne fissent que le minimum dans certaines écoles.
Est-ce que vous pouvez garantir aux parents que l'année qui va commencer, les enfants vont étudier dans de bonnes conditions?
Effectivement, c'est ça notre cheval de bataille, madame. Si vous regardez bien, nous sommes en train de nous forcer du point de vue construction des écoles et je crois que l'année 2024-25, le gouvernement provincial a doté quand même des tôles et nous avions aussi bénéficié dans nos 4 écoles, dans notre entité. Nous avons aussi autre problème, certaines écoles qui n'ont pas de propres bâtiments, de terrain. Il y a encore d'autres écoles qui continuent à loger dans des maisons d'habitation. C'est aussi un problème que nous faisons aussi vraiment des plaidoyers auprès des autorités afin qu'ils puissent aussi donner à ces écoles des terrains pour leur construction afin que les enfants étudient dans de très bonnes conditions.
Djunga Mashaka Bernard, merci.
C'est moi qui vous en remercie, madame Florence.
Mesdames, messieurs, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. C'est par ici que s'achève ma mission de vous informer aujourd'hui le 21 juillet 2026. D'ici 13h, c'est Christian Makasinga qui va devoir prendre les relais. Quant à moi, on se retrouve très tôt matin à 6h pour une nouvelle session d'information. En attendant, portez-vous bien.